Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Depuis l'annonce du confinement, les librairies crient au scandale.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la consommation de la culture en période Covid, on va l'appeler comme ça, en période de Covid. Hein. On tient à préciser que là, on enregistre cette émission le 12 novembre 2020, le jour même où on est censé avoir de nouvelles annonces du Premier ministre, et que pour nous accompagner dans cette émission, nous compterons parmi nos guests aujourd'hui, nos invités, Philippe Leleu, donc de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Il est en ligne avec nous et il a l'avantage ou le désavantage, c'est selon, vu la période qu'on traverse en ce moment, d'être à la fois éditeur et libraire. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Dans ce studio sont également présents Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, salut Philippe et bien évidemment, salut à toutes.
Depuis quelque temps, notre pays connaît une crise sanitaire. Pour nous, à Culture Prohibée, on a bien une petite idée. Hein. On va dire qu'après plusieurs dizaines d'années à fermer les lits d'hôpital par milliers, il ne faut pas s'étonner après que quand un virus malheureusement tueur arrive, on n'arrive pas à avoir les capacités suffisantes pour pouvoir soigner la population comme il se doit. Dans un pays riche, voilà, comme le nôtre, c'est quand même une catastrophe. Et puis du coup, il y a eu des décisions qui ont été prises. Des décisions, évidemment, qui vont dans le bon sens, puisque c'est pour protéger la santé des Français. Donc on dit aux Français, vous ne sortez pas de chez vous, vous vous protégez, et tout ça, voilà. Et puis on décide de laisser certains commerces ouverts et d'en fermer d'autres. Voilà. Et nous, on découvre donc avec stupéfaction qu'on ne peut plus aller au cinéma et que dans les librairies, on se contaminerait bientôt plus qu'en allant au supermarché. Donc, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on avait décidé, parce qu'on vit quand même une période vraiment particulière. On découvre que, par exemple, aujourd'hui, il y a certains festivals concours qui décident de différer les prix qu'ils sont censés donner pour pouvoir permettre aux livres d'exister et de pouvoir se vendre plus tard lorsque les librairies seront de nouveau ouvertes. Il y en a d'autres qui font d'autres choix, qui choisissent eux de maintenir leur calendrier quitte à ce que ça profite plus aux vendeurs, on va dire, en ligne. Voilà. Dans ce contexte-là, en plus, on a en ligne quelqu'un qui est à la fois libraire, mais qui est aussi éditeur. Comment toi, Philippe, tu as reçu cette annonce de fermeture des librairies, qui pour nous, dans notre émission, sont des endroits de lien social, enfin, sont plutôt des endroits essentiels, justement, pour lutter plutôt sereinement contre un virus de ce type.
Déjà, moi, j'ai reçu l'annonce. Une annonce. On s'attendait à l'annonce, hein, puisque je crois que c'était le mercredi soir. On s'attendait à une annonce. Par contre, je l'ai pris. J'étais sonné par la violence de l'annonce. La violence dans l'autoritarisme après plusieurs mois, je vais dire, d'incapacité à gérer la crise. Une espèce de réponse autoritaire et brutal, puisque on devait tout arrêter une fois de plus, mais autant la première fois tout le monde était, on va dire, on était tous potentiellement les victimes de quelque chose, d'une crise mondiale. Là c'était après six mois de normalement de réflexion, de politique, de mise en commun d'une lutte contre une maladie. Là, on a eu d'un seul coup, comme ça, l'injonction de tout arrêter le lendemain. Ce qui fait que, d'abord, j'ai pris cette mesure, je trouvais cette mesure violente, mais en plus dangereuse, parce que ça a poussé des millions de gens à se ruer dans les commerces, je ne parle pas là seulement des librairies, mais dans les commerces, créant, je crois, peut-être le plus grand nid à propagation qu'on ait connu depuis le début de la crise, quoi. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la librairie, on a eu autant de monde qu'un samedi avant Noël. Donc j'ai pris comme quelque chose de non réfléchi, d'absurde et de dangereux.
Mais parce que nous, qu'on soit clair, hein, dans l'émission, nous ne sommes pas coronavirus sceptiques ou quoi que ce soit.
Ah, du effectivement, tout, du tout. Voilà. Moi, je suis aux premières loges et je tiens à la santé de mes clients et de moi-même. Donc, on a bien sûr, depuis six mois, respecté, enfin, depuis la fin du confinement, mi-mai, respecté docilement, et on en faisait même plus qu'on nous en demandait. Un sens unique dans la librairie, ce qui ne va pas bien avec le mot labyrinthe. Ouais, la librairie du labyrinthe et le sens unique, c'est un oxymore, mais on a vraiment respecté ce qui était contre notre nature, c'est-à-dire des règles sanitaires, des règles qui faisaient qu'on ne travaillait pas dans de bonnes conditions et que on va dire que les clients ne pouvaient pas être heureux au labyrinthe comme ils pouvaient l'être normalement. On a tout respecté, mais nous, on a fait notre boulot de... On n'est pas spécialiste, moi j'y connais rien en épidémiologie, je ne suis pas... je n'ai pas étudié la question des virus, mais... On ne pouvait que suivre. Donc on a suivi à la lettre les directives et d'un seul coup, cette deuxième vague qui était un peu prévue, hein, je veux dire, C'est la deuxième vague, on en parle depuis le mois de juin-juillet. Et au mois d'août, elle s'est avérée s'annoncer comme inéluctable fin août. Donc, que fin octobre, on nous dise qu'on devait fermer tout ce qui était culturel. C'est ça qui est absolument aberrant. Moi, là, je traverse la ville, les gens travaillent, il y a presque autant de circulation, les gens font leurs courses. Donc, de toute façon, il y a de la circulation. La circulation, on essaye de respecter les gestes barrières, on essaye de faire vraiment. On a les gens, je vois dans la rue, là, dans mon quartier Saint-Leu, tout le monde a le masque. À part quelques SDF, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on leur en distribue en passant. Mais je veux dire, tout le monde a fait son boulot, quoi. Et j'ai l'impression que, je sais que c'est pas facile de gouverner en temps de crise comme ça, mais j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent se sont dit, hop, on verra bien. Mais non, quand on gouverne, on n'est pas dans le on verra bien. C'est qu'est-ce qui peut arriver ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, une fois de plus, les entreprises culturelles, tout ce qui est hors travail, hors école, tout ce qui donne le sel de la vie, tout ce qui nous fait réfléchir, tout ce qui combat ce qui est un autre ennemi en ce moment, l'obscurantisme, tout ce qui fait que les gens se rencontrent, débattent, tout ça, c'est fini. Tout le monde couché, métro, boulot, dodo. Et c'est cette incapacité à prévoir, à planifier une politique qui aurait pu limiter en tout cas les dégâts, qui n'a pas été faite, qui me révolte. Autant je crois que pour la crise sanitaire ça a été du on verra bien, autant pour ce qui est de la destruction de ce que nous avons de plus cher, de notre bien commun qui a été construit avec les cotisations des salariés, qui est la sécurité sociale, qui est le système hospitalier, là par contre il y a vraiment pour moi une politique de sabotage.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Et justement, nous, ce qu'on a du mal à comprendre, enfin, voilà, dans notre équipe, dans notre rédaction, hein, c'est pourquoi, parce que toi-même tu l'as dit, c'est-à-dire qu'actuellement on a tous des autorisations pour travailler beaucoup plus larges que la dernière fois, on se déplace plus, on voit plus de monde dans les rues, sur la route, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui portent le masque, hein, ce ne sont pas des gens qui s'amusent à braver le confinement sans autorisation ou quoi que ce soit, mais et puis les écoles sont ouvertes, voilà, donc ça circule, quoi, donc le virus aussi potentiellement circule. Alors pourquoi les lieux culturels, dont on sait déjà qu'ils étaient en grande difficulté suite au premier confinement, les salles de spectacle, les salles de cinéma, les librairies en ont fortement pâti aussi. Pourquoi on décide là, et là particulièrement les librairies, au moment où elles font 25% de leur chiffre d'affaires annuel sur cette période, pourquoi on tape sur ces lieux culturels actuellement? Ça pose question quand même.
Oui, ça pose question. On peut se poser la question. On peut se poser la question que, bon, même si la. Il y a une exception culturelle française, on ne peut pas le nier. Mais c'est une exception culturelle qui date de dizaines d'années de travail collectif autour de la culture. Hein. On a une exception culturelle au niveau du cinéma, on a une exception culturelle pour, je veux dire, l'aide à la création, on a une exception culturelle, par exemple, c'est le prix unique depuis 1980. Il y a une exception culturelle en France autour et qui est constamment à défendre. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport de combat, on doit toujours défendre ça. Il y a toujours, à chaque gouvernement, des députés qui vont dire pourquoi il n'y aurait pas le prix libre, pourquoi il n'y aurait pas la libre concurrence. Bon. Là, jusqu'alors, on arrive à maintenir, je vais dire, un statu quo de protection de la création et de la vie culturelle en France. Et alors pourquoi il y a en ce moment ces restrictions pour les cinémas, le théâtre, les librairies, les conférences, moi je ne veux pas faire de procès d'intention. C'est-à-dire que ou c'est idiot ou c'est réfléchi. Et je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais ce que je sais, c'est que une société sans culture, en tout cas la nôtre, et toutes les sociétés d'ailleurs, hein, mais elle est basée quand même depuis le XVIIe, XVIIIe siècle surtout, sur le livre, sur le théâtre, et cette culture-là, qui est livresque, elle est fragile. C'est toujours fragile. Donc, lorsqu'on ferme des librairies pendant un mois, pendant deux mois, là, ça va être un troisième mois, cette fragilité-là, et c'est pas le clic et collecte qui va faire face à cette attaque. La culture, c'est la rencontre. La culture, c'est le hasard. La culture, c'est le plaisir de débattre. Donc, la culture, c'est de se voir, c'est un miroir. C'est de se voir, c'est de vivre d'autres vies que celles qu'on nous a tracées, hein, à l'école et au travail. Et là, j'ai l'impression que ce gouvernement réagit un peu comme un conseil d'orientation. C'est-à-dire que nos chemins sont tout tracés. La culture qui crée des voies déviantes, on fait barrage. Alors, je comprends qu'on puisse se dire « le Covid a bon dos ».
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris ces derniers jours, justement parce qu'on est dans une période où beaucoup de lieux culturels sont fermés, donc beaucoup de festivals sont reportés ou, ou décaler, notamment ce qui est le cas du prix Goncourt qui aurait dû remettre son prix au début d'année. Et au milieu de tout ça, il y a d'autres qui décident de poursuivre, comme le prix Femina qui a décerné son gagnant, sachant que les librairies en ce moment étaient fermées. Et justement, je voudrais savoir si par rapport à ça, je voudrais recueillir ta réaction par rapport à ça, de se dire que finalement il va y avoir un bouquin qui va sortir, que les librairies en soi ne peuvent pas forcément le distribuer vu qu'elles sont fermées, et du coup tout le monde risque de se tourner vers d'autres plateformes pour le récupérer.
Alors je suis le mauvais client là, parce que depuis 32 ans que je suis libraire, je ne dis pas que je ne fais pas attention au prix, mais en gros, je ne m'y attache pas. Donc, je trouve ça bien que le Goncourt est reporté. C'est bien parce que c'est bon de ne pas reporter les prix en ce moment. C'est quand même je ne vais pas prononcer le mot, mais c'est quand même faire. C'est quand même amener les gens à la simplicité, puisqu'il est dangereux de sortir. La simplicité, c'est de commander par Internet avec une livraison à domicile, ce qui entraîne bien sûr une perte de chiffre d'affaires énorme pour les librairies qui, elles, payent leurs impôts. Il faut rappeler que beaucoup de GAFA ne contribuent pas au budget national, c'est-à-dire ne payent pas d'impôts, donc c'est pousser toute cette économie vers les GAFA. Alors, je trouve ça bien que des prix soient reportés comme le Goncourt.
Thank you.
Vous écoutez Philippe Leleu, éditeur et libraire à la librairie du Labyrinthe à Amiens, au micro de Culture Prohibée.
Septembre, novembre, donc toute cette période, c'est considéré comme la rentrée littéraire, mais finalement avec la situation, est-ce que la rentrée littéraire va être reportée ?
Ça, je ne sais pas. Moi, je sais que ce qui est reporté, moi, bon, par exemple, je sors un livre, je peux faire un peu d'autopromotion, là, je peux dire le titre, bon, c'est un livre qui va faire date dans, je pense, dans l'histoire littéraire de la Picardie, du nord de la France, et donc de la France, tout court. C'est Tout Picard que j'étais, un livre de Jacques Darras sur l'exceptionnelle création littéraire à travers les siècles dans notre région. Bon, ce livre, il y avait des animations autour, une présentation à la Comédie de Picardie, il y avait des radios qui étaient prévues. Bon, c'est terrible. Je me suis demandé, moi, est-ce que je reporte pas ? Bon, je ne reporte pas. Mais je veux dire, chaque éditeur est libre. C'est un métier libre. C'est un métier où on s'engage. C'est un métier c'est un métier de producteur. Donc voilà, il y a des éditeurs qui repoussent la production, il y a des cinéastes qui repoussent, et puis il y a d'autres qui ne le font pas. Je crois que là, il y a un choix personnel. Moi, je ne juge pas ça.
Tu viens de le dire, hein, t'as la particularité, toi, d'être libraire-éditeur. De toute façon, je voulais justement te demander si tu avais... je ne sais pas si tu as d'autres projets en cours, tu pourras nous en parler si tu veux, mais qu'est-ce qui a motivé, toi, le choix pour un libraire de devenir éditeur ? Parce que c'est assez rare. En fin de compte, le libraire est souvent libraire, il n'est pas souvent éditeur. Enfin, il y en a quelques-uns, évidemment, mais c'est pas la majorité.
Ils étaient tous avant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant, les éditeurs étaient libraires. C'est-à-dire que les libraires éditaient les livres qu'ils vendaient. Ça, on a vu ça... à partir du, surtout du 17e, même 16e, les imprimeurs. C'est-à-dire que les imprimeurs, en fin de compte, à partir donc de l'invention de l'imprimerie, les imprimeurs étaient à la fois éditeurs et libraires. Mais la librairie, vraiment, s'est créée en même temps que l'édition. C'est-à-dire que tous les libraires étaient éditeurs. Après, il y a une séparation, on va dire, sous Napoléon III, par là, enfin, fin du 19e, ces métiers se sont détachés, hein, entre libraires, éditeurs, imprimeurs, tout ça, ça s'est... et il s'est créé une chaîne du livre. Et moi, donc, je suis un petit peu néandertalien, vous voyez, pour le métier. Ça, je fais partie des quelques libraires qui restent éditeurs. Et pourquoi ? Parce que j'ai toujours été... En fin de compte, j'étais au départ ouvrier du livre, monteur copiste, après libraire, et éditeur, il faut... Voilà, ça, c'est par plaisir déjà, hein. C'est-à-dire que on a envie ce besoin de produire, ce besoin de création, il fait partie du métier. Et si maintenant ces métiers sont détachés, spécifiques, on appelle ça la chaîne du livre, hein, c'est-à-dire de l'auteur au lecteur, il y a l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur, le libraire, et enfin le lecteur, ça fait partie de l'économie moderne, on va dire. Alors disons que moi je suis peut-être un libraire-éditeur, pas du passé, mais qui reste attaché à ce lien direct entre l'auteur et le lecteur par le libraire.
Ce qu'on peut voir là, je dévie un peu du simple métier de libraire. Ce qu'on peut voir un peu dans certains officines culturelles, on va dire, c'est qu'il y en a qui se rabattent sur le net. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces personnes qui profitent, j'utilise le mot profiter à dessein, qui profitent de cette crise sanitaire pour créer des choses sur Internet. Je pense notamment à des festivals de cinéma, à d'autres choses comme ça. Alors que, comme tu le disais tout à l'heure, je pose aussi la question à Jérôme et à Damien, hein, je pose la question à tout le monde là. Hein. Comme tu le disais tout à l'heure, la culture, c'est la rencontre. Effectivement, une librairie, c'est aussi un lieu social, comme le cinéma, comme la salle de spectacle, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là qui mettent sur le dos du Covid le fait de vouloir créer des choses sur Internet, des festivals en ligne, dématérialisés, etc.
Bon, ce que je peux dire, c'est que en Picard, on dit chacun son brin, chacun son airain. En période de crise, tout le monde fait comme il peut. Ce que je peux dire aussi, c'est que moi, depuis 15 jours, je vis l'enfer au niveau boulot. C'est-à-dire que c'est pas mon travail, ça. Je passe des heures, plus que mon temps normal de travail, presque, sur écran. C'est pas mon travail. Donc, j'en souffre. Vendre du livre sans contact, simplement en répondant par mail, sur Facebook, sur le site, sur Instagram, et j'en passe. Ça fait de moi quelqu'un devant un ordinateur, ça fait le client devant l'ordinateur, ça fait qu'on est tous bon voilà, c'est je ne peux pas me réjouir de ça. Maintenant, pour ceux qui profitent comme vous dites, mais moi je n'emploierai pas là ce mot-là parce que moi mes livres n'ont jamais été répertoriés sur Internet. C'est-à-dire que pour celui qui veut voir ce qu'il y a dans la librairie, il est obligé de se déplacer. Alors j'ai fait sur le site une librairie virtuelle, mais où on peut voir en photo les livres. C'est encore autre chose. C'est comme si c'est un intermédiaire entre l'être et ne pas être. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la librairie par photo. Je sais pas si c'est un peu fou comme truc, mais ça me permettait pour moi de garder les livres, que les gens puissent encore aller plus ou moins, un petit peu dans la librairie. Mais comme je vous dis, chacun son brin, chacun son airain. Hein, c'est-à-dire que comment résister à ça lorsque les gens ne veulent plus se rencontrer? Comment résister à ça pour exister encore un peu?
It is bizarre, but when I go back home after work, I want to escape.
Ah ouais?
Ah yes.
Ah, it is bizarre because me too. Ah, this is Sunday song, la pêche! 3, 4.
Je rentre chez moi, je sais pas quoi faire ce soir. Envie de rêver, besoin d'une histoire.
Ouais, j'allume la télé, Jean-Marie Bigard. J'éteins la télé, j'enfile mon costard.
Et j'invoque Almodovar.
I'd like to see
a good movie,
just you and me,
just you and me,
at UGC.
J'aimerais voir
un film ce soir,
juste toi et moi,
au cinéma, pour rêver, pour pleurer,
voyager,
et s'aimer,
1, 2, 3, 4. Im Kino.
1, 2, 3, 4.
Ich reise. Ich träume.
Ich fühle mich. Ruppig.
1, 2, 3, 4. I escape.
You escape, tu t'évades, mais aussi les livres pour s'évader.
Ouais. Je prends un bouquin,
ouais.
Les Trois Mousquetaires.
Ah ouais.
Il paraît que c'est bien,
ouais.
Ça devrait me plaire.
Ouais. Il y a plein de personnages, un rythme d'enfer.
Ouais.
Au bout de 3 pages, je roule par terre.
Et j'invoque
Franciscus Kerr. Alexis, Ragunri, Just you and me, à juge ici, j'aimerais voir un film ce soir, juste toi et moi, au cinéma.
Hey, moi j'ai cinéma turc.
I know this song.
Oh yeah.
Yeah. If you know this song too, you're European, even if you're British.
Yeah.
It's the magic of the cinema.
C'est ça.
Everybody is European.
Ciao, ciao, c'est la chanson du dimanche. Bon film, à bientôt. I'd like to see a good movie. Just you and me.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale culture en temps de crise.
Au cinéma,
pour rebondir un peu sur ce que disait Thomas, moi je ne sais pas si tout le monde profite. Je pense aussi que bon, je vois certains festivals qui pour garder un lien avec le public, mettre des films en ligne, des choses comme ça.
Bon, parce que pour exister encore.
Voilà,
garder,
c'est ça.
Garder le lien avec les gens.
Attention, je ne parle pas des festivals qui essaient de trouver des alternatives temporaires. Je parle de gens qui vraiment qui sont opportunistes. Pour proposer autre chose qui en fait enferme encore chacun dans ses idées préconçues, et il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de trucs comme ça. Ils mettent ça sur le dos de la crise sanitaire. Je dis pas que tout le monde le fait, hein. Je dis qu'il y en a qui le font.
Parce que bon, moi, comme tu dis, chacun son bras, hein, on est picard, hein, donc mais effectivement on a moi je suis aussi programmateur d'un ciné-club dans une salle de cinéma. Et ça questionne beaucoup parce qu'on parle des librairies, les salles de cinéma aussi. Enfin, j'ai presque envie de dire, bon, tout le monde est dans la merde, mais j'ai presque envie de dire que c'est encore pire pour les salles de cinéma parce que là, elles n'ont vraiment aucune source de revenus, quoi.
Ah ben, bah, ils ne peuvent pas vendre leurs films par internet, là. C'est sûr. Non, mais j'ai pas de recul là-dessus. Je sais que malheureusement, ce virus accélère un mouvement qui existe depuis pas mal d'années déjà. C'est la suppression, on va dire, d'une certaine liberté pour plus de confort. Et pour moi, le confort, c'est quand même la mort, le confort. La vie, c'est le hasard. La vie, c'est la liberté. Donc oui, cette crise accélère ce mouvement-là, et on ne peut, enfin, en tout cas, moi, je le déplore. Maintenant, est-ce que cette crise va créer un manque? Va créer un manque et qu'il va y avoir une réaction. Moi, j'ai remarqué quand même une certaine réaction après le premier confinement, un début de retour de la jeunesse dans la librairie. Donc, peut-être la redécouverte que des lieux étaient indispensables à la diversité, au hasard et donc à la liberté. Que le confort qu'on essaye de nous, ou dans lequel on essaye de nous mouler tous, hein, de nous enfermer, ce confort d'internet, hein, ce confort, cette sécurité permanente qu'on nous on nous demande toujours d'être toujours plus en sécurité. Et toujours plus en sécurité, avec toujours la même rentabilité, hein, le souci de rentabilité, c'est-à-dire c'est-à-dire une consommation de masse, une consommation qui ne laisse pas de place au dilettantisme. Voilà. Est-ce que cette crise, qui évidemment accélère ce mouvement-là, qui est néfaste pour moi, est-ce qu'il ne va pas y avoir un contre-mouvement après? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devin.
Nous non plus. Bon, moi, je suis quand même un peu, j'ai une vision peut-être un peu noire. Bon, sur le monde d'après, j'ai bien peur qu'il ressemble au monde d'avant. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas vu venir, le monde d'après. Mais bon, il y a quand même, comment dire, quelque chose que tu soulèves là qui est très important. C'est-à-dire que ce monde qu'on veut nous proposer, ben alors on le voit hein, dans toutes les entreprises, voilà, pas que pour la consommation de culture d'ailleurs, c'est le monde du moins-disant. C'est-à-dire, c'est un monde sans convention collective, c'est un monde avec des salariés payés quasiment rien, qui travaillent dans des conditions catastrophiques, et où on condamne, alors sans vouloir être poujadiste, on condamne le petit commerce, mais c'est-à-dire on condamne, surtout dans la culture, le lien, l'échange, le débat.
D'abord, ce truc du poujadisme qui dure depuis des décennies, à chaque fois on amène le poujadisme quand on défend le petit commerce. Non, défendre le petit commerce, c'est pas du poujadisme, c'est défendre la diversité. Et en matière de librairie, la bibliodiversité.
Non, mais bien sûr. Et donc,
Non, parce que Poujade qui n'a été qu'un petit feu follet dans la vie politique, je veux dire, il est toujours vivant dans le vocabulaire, alors que ça serait bien qu'on l'oublie, quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais après, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'est-ce que tu crains pas, toi, justement, alors, ce que tu dis sur la jeunesse est plutôt vivifiant, mais qu'on se prépare pas un monde sans dialogue, sans échange, un monde du chacun alors, chez soi. Voilà.
Alors, c'est peut-être ma soixantaine arrivée depuis quelques jours qui me rend béat d'optimisme. Non, j'en suis pas là, mais quand même. Ce que je remarque, moi je n'ai vécu depuis la création de la librairie, j'ai vécu quand même des crises successives. D'abord les grandes enseignes, après on a eu la vente par Internet, après on a eu aussi le livre numérique. Enfin, je veux dire, on a fait face à toutes ces révolutions technologiques qui amenaient un changement de comportement. Et un changement de comportement qui est toujours vers plus de confort et de conformisme. Je remarque, je suis prudent, un fléchissement de ça. Parce que la jeunesse restera toujours la jeunesse. Et il y a un moment donné, c'est par vague, hein, c'est comme les époques glaciaires où voilà, il y a un moment donné, la jeunesse se dit ça va, le chemin que vous nous montrez n'est pas le bon. Alors je dis pas que c'est demain, mais je sens quand même je le vis, il y a plus de jeunes curieux qui viennent dans la librairie depuis quelque temps. Et ça me fait du bien, parce que bon, moi je n'ai pas vécu de moments, on va dire, où je sentais une belle évolution autour du livre depuis des décennies.
We want the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry unable. Protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country, dear.
the sick and the hungry unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Hardening crimes is a part of the times, and it's rough for some people to live. Disease can move fast, but it don't have to last. It is now the nation's turn for all to be concerned. We can be freer still. It is the people's will, and bring back the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people.
Vous écoutez Philippe Leleu de la librairie du Labyrinthe à Amiens, au micro de Culture Prohibée.
Tu as parlé de concurrence, notamment qui s'est installée avec les grands magasins d'espaces culturels ou encore Amazon ou plus récemment tout ce qui est livre audio et numérique. Et en fait, par rapport à ce que je disais, Jérôme, au cinéma, il y a aussi l'idée du cinéma, c'est aller regarder un film et c'est également une expérience qui est aller le voir, c'est-à-dire finalement cette convention collective de se poser tous ensemble dans le noir pour regarder un film en silence. Et du coup, je me demande, pour les librairies, ils ont certes donc le livre qui est un peu partout, mais ils ont également, à mon avis, une expérience qui est liée. C'est-à-dire que là où on fait la convention collective de se poser dans le noir dans la librairie, est-ce que dans le cinéma, est-ce que la librairie, ce serait... Enfin, qu'est-ce que ce serait pour la librairie, peut-être le silence ou quelque chose d'autre? Est-ce que tu en as une idée?
Alors, le silence, pourquoi pas? Mais bon, la librairie n'est pas une église, ni une bibliothèque. Souvent une bibliothèque, lorsqu'on va dans une bibliothèque, il y a toujours un bibliothécaire pour vous faire, si jamais vous avez un peu d'enthousiasme avec un ami que vous venez de rencontrer, que vous parlez d'un livre. Une librairie, c'est pas chute. Donc, ce n'est pas le silence, pour moi. La librairie, c'est vraiment l'échange, et l'échange sur n'importe quel ton. C'est un échange libre. Bon, après, on supporte ou on supporte pas, hein. Mais pour moi, il n'y a pas de... C'est pas un lieu sanctifié. Ce n'est pas une église. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Si, parfaitement.
Oui, puis on peut comme équivalent de ce que Damien disait à l'instant, il y a aussi dans les librairies des lectures qui sont organisées, des rencontres avec
Après,
les auteurs.
Le
c'est
cinéma,
là, voilà.
Bon, le noir, c'est bien, mais moi, quand je vais au cinéma, c'est pour être ailleurs, c'est pour être quelqu'un d'autre. Moi, quand je sors d'un grand film, je sors d'un western, je marche différemment pendant quelques minutes. S'il est bon, le western. Si je sors d'un grand roman noir, je peux avoir la main sous la veste pendant quelques minutes. Le cinéma, c'est autre chose. C'est pendant un moment, on est porté dans une autre histoire. Donc et le fait d'être dans le noir, ça aide à être vraiment dans l'histoire. Lorsqu'on est chez soi devant le petit écran ou l'ordinateur, on ne peut pas être ailleurs complètement, on peut pas être un autre homme.
Oui, on est toujours distrait par des éléments extérieurs, le téléphone sonne,
on est distrait par sa propre vie. Là, ce qu'il faut, là, c'est le cinéma, on éteint sa vie.
Au final, on sort du cinéma différemment, et avec une librairie, une fois qu'on a acheté le bouquin et qu'on l'a lu, on revient dans la librairie différemment.
Lorsqu'on revient dans une librairie et qu'on a lu un livre, conseillé ou pas conseillé, conseillé par le libraire ou simplement conseillé par ce que j'appellerais le hasard. Le hasard, ça peut être la quatrième de couverture, ça peut être la couverture, ça peut être le titre, ça peut être le livre qui tombe, ça peut être... Et bien voilà, lorsqu'on rentre dans un livre, c'est comme au cinéma, on éteint la lumière sur sa vie.
Pour finir un peu sur rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, et puis peut-être finir sur une note positive, mais du coup, parce qu'on va finir par en sortir de cette crise quand même, enfin voilà, il faut l'espérer, il faut être positif. Comment tu vois, toi, l'avenir de la librairie du Labyrinthe, alors aussi bien librairie, l'activité librairie que l'activité édition?
Mais je peux m'imaginer centenaire.
Bien sûr, j'espère bien même.
Bon, la librairie, je ne m'imagine pas pendant des années continuer à porter les cartons, mais ce que j'espère surtout, c'est que les lieux survivent aux personnes. C'est ce qu'espère un libraire lorsqu'il crée une librairie, c'est que la librairie lui survive, en tant que lieu.
En plus, la librairie du Labyrinthe, on peut dire qu'à Amiens, c'est une institution, quand même. Ah, on peut le dire.
Ben, disons qu'entre le monument historique de la cathédrale et celui vertical plutôt, et celui horizontal des Antillonnages, il y a la modeste librairie du Labyrinthe qui dans mais qui n'est, ça c'est pas séculaire, mais dans ces années là est un petit monument pas historique, mais un monument vivant, un monument de vie.
Surtout qu'elle est ouverte le soir, enfin tout du moins le week-end, et qui permet d'avoir du passage encore plus d'interaction avec peut-être un public hasardeux aussi, comme tu disais tout à l'heure, le hasard fait quelque chose.
Le soir, le public est beaucoup plus... le public vient avec beaucoup plus de liberté le soir. J'ai plus de gens dans la journée qui savent ce qu'ils veulent. Le soir, le public noctambule et se laisse plus balader par le hasard, oui.
C'était mon cas quand les premières fois où j'ai franchi le pas de porte de la librairie du Labyrinthe, où j'allais, c'était le soir, j'y allais un peu au hasard et j'achetais des livres un peu au hasard avant de devenir un client régulier qui commande sans arrêt. Voilà. Et mon premier livre, ça a été La vengeance du Manitou de Graham Masterton. Et je m'en souviens très bien.
Ça, c'est super de se souvenir de ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'un livre et qu'un plaisir soient attachés aussi à un lieu. C'est ça qui est important. C'est ça que ne pourra jamais offrir le virtuel. La vente sur Internet, c'est le lieu. Je parle même plus des gens, là. Je parle du lieu. Le lieu rempli de fantômes. Librairie, c'est un lieu rempli de fantômes.
Est-ce que... Enfin, j'ai une question pour toi, Philippe, et également les gens autour de cette table. Parce qu'actuellement, on est en confinement, et du coup, il y a beaucoup d'œuvres, de bouquins qui sont repoussés. Mais du coup, est-ce qu'il y a un bouquin en particulier que vous vouliez lire, qui est repoussé, et du coup, que vous attendez que la période prenne fin pour savoir qu'on va enfin... pouvoir le lire ou le recevoir?
Non, là, surtout, c'est que cette période est... là, je suis en train de relire... je suis en train de relire un livre, là, de Manchette. Mais j'ai plein de livres qui s'écroulent là, au pied de mon lit. Mais surtout... On vit une période épuisante. Épuisante moralement, nerveusement, psychiquement. Et il est très difficile pour un libraire, en tout cas pour moi, de lire autant que je lis normalement. Mais si vous voulez vous détendre, je peux vous conseiller un livre que je viens de lire là. Alors je me souviens plus du titre, mais c'est de Thomas Vino, le dernier Thomas Vino. Alors il écrit quelque chose qui est complètement différent. C'est avant tout un poète, hein, Thomas Vino. Il écrit quelque chose là de tout à fait étonnant par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Ça s'appelle Fin de saison. Et c'est un roman apocalyptique, comme j'aime bien. Et c'est tout à fait voilà, c'est tout à fait de saison, cette fin de saison. Et c'est un roman qui est drôle.
C'est une belle,
bien écrit, parce que Thomas Vino est un grand styliste et c'est un grand styliste. Il fait vraiment un exercice de style là, parce qu'il écrit quelque chose dans un style complètement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude.
C'est une belle conclusion, un conseil lecture. En tout cas, on te remercie beaucoup, Philippe.
Le sous-titre, c'est « Qu'est-ce qui nous tient quand tout s'écroule ?» Point d'interrogation. On va finir par ce point d'interrogation.
C'était Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Mi. Une émission animée avec Damien Demey dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit le Loup-Garou Picard and the Last but not the Least. Je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Évoluer ton esprit. Oui.